Bienvenue sur Radio Mayuri Campus. J'accueille Marion Boisseau, doctorante en écologie et forêt tropicale, et également Wilfried Denagme, qui est doctorant en chimie des substances naturelles. Vous êtes tous les deux les lauréats du concours Ma thèse en 180 secondes, et donc c'est vous qui allez représenter l'Université de la Guyane cette année. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation. Merci.
Alors, Marion Boisseau, est-ce que vous pouvez nous faire une synthèse de votre projet, ce projet que vous avez eu à présenter devant le jury, qui vous a permis d'être lauréat, d'être récompensé pour pouvoir représenter l'Université de Guyane?
Alors oui, alors je travaille, donc je suis doctorante à Kourou, à l'UMR, donc l'unité mixte de recherche Ecofog, et je travaille sur effectivement les forêts tropicales, et je m'intéresse en fait, il y a différents habitats en Guyane, donc je m'intéresse aux espèces qui vivent, aux espèces d'arbres qui vivent dans ces habitats, et comment ils vont se comporter, fonctionner avec des sécheresses qui s'intensifient en Guyane. Donc voilà, donc dans 50 ans, quelles espèces on aura sur le territoire guyanais.
D'accord, pour le moment vous n'en dites pas plus, on va
c'est
y revenir. Alors vous, Wilfried Denagme, j'espère que n'avoir pas écorché votre nom, c'est bien ça? D'accord.
Denab.
Donc vous, vous êtes doctorant en chimie des substances naturelles, même question.
Justement, je travaille sur les fruits d'un palmier, le moncaya, qui n'est pas assez valorisé en Guyane. Qu'est-ce que je fais? J'utilise les fruits de moncaya pour en faire des nanovecteurs.
D'accord. Bon, pour l'auditeur, nos auditeurs, à mon avis, ça ne leur parle pas énormément. mais vous nous donnerez davantage d'explications dans quelques minutes. Pour revenir à vous, Marion Boisseau, alors justement, vous avez pu jusqu'à maintenant distinguer combien d'espèces de forêts, ou sinon sur combien d'espèces de forêts travaillez-vous vraiment?
Alors je travaille donc sur des espèces qui poussent à la fois dans les bas-fonds, donc dans des zones qui sont ennoyées, et aussi en terre ferme, donc sur les plateaux en Guyane. Et en fait, sur ces deux habitats, je travaille sur 24 espèces d'arbres qui sont à la fois qui habitent dans les deux habitats, ou alors qui sont spécialistes d'un seul des deux habitats.
D'accord. Voilà. On peut avoir quelques typologies d'espèces sur lesquelles vous travaillez?
Alors oui, donc par exemple, je travaille sur Eperua facata, je travaille sur Dicorinia guyanensis, donc qui est l'angélique par exemple.
Que l'on connaît bien, oui.
Ben, voilà. Et puis donc les 24 autres.
Oui.
Je ne vais pas les énumérer.
Et qu'est-ce que vous cherchez à savoir?
Et en fait, je cherche à savoir déjà à comprendre comment elles fonctionnent, comment elles puisent leurs ressources dans le sol, comment elles gèrent leur stock d'eau en fait, puisque avec des sécheresses de plus en plus intenses, il y aura moins de précipitations. Donc, comment les espèces se comportent avec moins d'eau du sol? Et l'eau, c'est quand même vital pour tous les êtres vivants, dont les arbres.
Pourtant, voilà. En Guyane, on est plutôt bien servi en termes de précipitations, non?
Alors en saison des pluies, oui, mais après on a les saisons sèches, et il est prédit dans les scénarios, par exemple, du GIEC.
Qui l'a prédit?
Donc dans les scénarios du GIEC.
Ah, pardon.
Voilà. et aussi des publications scientifiques qui prédisent une augmentation de la durée de cette saison sèche, et elle deviendrait donc plus longue, donc de 3 mois passés à plus de 3 mois, et plus intense. Donc plus fort, et plus de jours consécutifs sans pluie.
À quelle échéance?
Donc je ne suis pas en modélisation ni en prédiction, hein, mais plutôt dans 50 ans, on va dire. Mais enfin, on peut voir de nos jours sur une échelle de 30 ans, on peut voir que le climat passé était plus clément en précipitation.
Et quelles sont les méthodes que vous utilisez pour ces recherches?
Alors,
mode opératoire.
Alors, je vais sur le terrain, pour voir mes espèces et pour les échantillonner. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les feuilles, parce que la feuille est quand même à l'interface de l'atmosphère, donc tout ce qui est climat, et de la plante. Donc j'échantillonne les feuilles, mais aussi je vais regarder ce qui se passe au niveau des racines, qui est une autre interface, la plante et le sol.
Vous y prenez comment pour aller voir dans les racines s'il y a de l'eau ou pas?
Alors, comme c'est un peu compliqué d'aller prélever les grosses racines des gros arbres en forêt, en fait, je vais mettre en place des expériences en serre. Donc je travaille en serre sur des plantules, donc des plus petites plantes.
Ah oui.
Voilà, donc à plus petite échelle pour regarder ce qui se passe au niveau des racines. Et dans le sol, il y a beaucoup de bactéries, de champignons qui peuvent s'associer aux racines des arbres et regarder le cortège en fait microbien entre mes espèces qui vivent dans un habitat, dans le bas-fond, ou en terre ferme, ou dans les deux. On va avoir des associations entre les arbres et la communauté microbienne du sol différents. Et voilà, et des traits fonctionnels au niveau des feuilles aussi différents. Donc moi je regarde les potentiels hydriques, puisque je travaille beaucoup par rapport à l'eau en fait, la disponibilité en eau des plants. Et donc voilà, donc on va sur le terrain, on échantillonne, avec un big shot ça s'appelle, donc c'est comme un grand lance-pierre. Mmh. Et faut être bien musclé, donc on est toute une équipe sur le terrain, je suis pas toute seule. Et après on vise une branche. Il y a une ficelle qui va s'enrouler autour de cette branche. On secoue et après il y a des feuilles qui tombent. Donc après il faut aller vite les récolter avant qu'elles tombent au sol.
Ouais.
Et les repérer parce qu'il y a quand même plein de feuilles déjà au sol. Hein.
Absolument.
Voilà. Oui. Et après au labo on fait toute une batterie de tests sur ces feuilles. Voilà.
Très bien. Vous nous direz tout à l'heure en quoi ces recherches vont nous aider la société guyanaise, l'humanité, en termes de connaissances, de vulgarisation des savoirs et peut-être dans des applications, mais vous nous direz tout cela tout à l'heure. Maintenant, je me tourne vers Wilfried Denag, qui est donc doctorant en chimie des substances naturelles. Vous nous avez expliqué brièvement tout à l'heure ce sur quoi vos recherches étaient menées. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je serais tenté de poser la même question que Marion. Quelles sont vos motivations en fait en travaillant dans ce domaine, en vous lançant dans ces études? Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer?
Justement, comme je disais, les nanovecteurs, c'est des composés qui sont naturellement synthétisés de manière chimique. Donc, ils sont faits à base de pétrole. Et puis, on sait tous qu'aujourd'hui, quand on va dans les supermarchés, quand on trouve des produits, on aime tout ce qui est bio.
Mmh.
Déjà pour notre santé et également pour l'environnement.
Donc, vu que c'est plus cher, c'est pas toujours à la portée de toutes les bourses, mais effectivement, on aurait préféré avoir des produits bio.
Exactement, surtout pour l'environnement et également pour notre santé.
Bien sûr.
Qu'est-ce que moi je cherche à faire? J'utilise les fruits de Moukaya, comme je l'ai dit, pour en faire des nanovecteurs. Des nanovecteurs, c'est quoi? En fait, c'est des composés qui sont de la taille du nanomètre, comme le nom l'indique, hein, qui vont servir à transporter d'autres molécules qui ont une activité biologique. Si on prend le cas, par exemple, du cancer, pour que la cellule cancéreuse soit traitée, il faut que la molécule d'action puisse fisser cette cellule cancéreuse et puisse arriver à s'y fisser de manière précise. Donc, les nanovecteurs vont servir de transport pour les molécules actives. Donc, ces nanovecteurs qui sont autrefois synthétisés de manière chimique, donc par voie pétrolière, moi, je le ferai de manière végétale, à 100%. Et puis, j'utilise les feuilles de Moukaya, je vais extraire de l'huile, l'huile de la pulpe de Moukaya. Et puis, parallèlement, je vais extraire aussi des polysaccharides. Pourquoi? L'intérêt, c'est de les fusionner comme un accouplement entre mâle et femelle. Et là, je vais obtenir une molécule unique. Et c'est cette molécule-là qui va constituer mon nanovecteur, c'est-à-dire le transporteur. Pourquoi est-ce que je le fais? Ma motivation d'abord, il faut dire que le Moukaya, c'est un palmier qui est rarement connu en Guyane. Des fois, même quand je circule pour ramasser mes fruits, d'autres me disent « Mais attention, c'est toxique, on ne mange pas. » Alors que ça se mange. Et d'ailleurs, au Brésil, le palmier, il est domestiqué. Et déjà, lors de ma présentation, je le disais tantôt, la France est le seul pays présent dans 5 des 34 points chauds. Les points chauds, en fait, c'est des points où il y a la biodiversité qui est abondante, mais à la fois, cette biodiversité est menacée. Mmh. Si un palmier qui pousse de manière sauvage, on ne le domestique pas, on ne sait pas si dans 10 ans, ce palmier sera toujours là. Alors que ce palmier au Brésil, il est bien domestiqué. Et d'ailleurs, même au Brésil, il se pourrait que, selon les études qui ont été faites, par des Brésiliens, bien sûr, c'est que l'huile de moncaya pourrait même concurrencer l'huile du palmier à huile, qui est reconnue mondialement comme étant une source de palmier à huile, quoi, comme il porte son nom.
Et ce sont des recherches que vous avez menées principalement en Guyane, qui se sont déroulées principalement en Guyane?
Justement, je suis en co-direction avec l'Université de Rennes, mais la majorité de mes recherches se feront en Guyane.
Et voilà. Et quel a été là aussi le mode opératoire, comment vous vous y êtes pris et aussi dans quels sont les endroits que vous vous êtes rendu, est-ce que vous avez eu à vous déplacer, à vous rendre dans les communes de l'intérieur de la Guyane?
Le moncaya, il pousse beaucoup plus vers le littoral.
Ok.
Donc j'ai la chance d'avoir la mer qui est juste à côté. Du coup, je passe un peu vers l'IRD, la route de Montabo. J'essaie de ramasser même à la place de Suzini, un peu partout, en Sucayenne.
Ok.
Bon, je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il faut que je puisse ramasser chaque jour pour pouvoir être sûr de la qualité de mes fruits. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que je reste Sucayenne d'abord et aussi à cause du littoral.
Et ça s'est déroulé sur quelle durée?
La durée, je l'ai commencé depuis que le fruit a commencé par mûrir et puis à tomber. Je ne saurais vous le dire parce que selon la littérature, comme je le disais, le moncaya c'est beaucoup plus référencé vers des études qui sont orientées vers des pays comme le Brésil et un peu partout ailleurs, abondamment le Brésil. Donc en Guyane, on ne l'a pas étudié de manière assez approfondie d'un point de vue scientifique. Donc il faut dire qu'on est un peu plus vers la découverte en fait.
Ok. Et une fois que vous avez récupéré vos fruits, quelle était la suite?
Dès que j'ai occupé mes fiches, je pars au labo, déjà. J'essaie de les traiter pour être sûr que mon produit ne va pas se détériorer une fois conservé au congélateur. Et puis par la suite, je les récupère, je les sors du congélateur, voilà. Et puis, je les épluche, puisque moi, je veux la pub, bien évidemment. Donc ça, c'est manuel, au couteau.
Ok,
parfois, je me pique, hein.
Donc, on
c'est pour vous dire le travail qu'il y a derrière. Et puis en plus, le moncaya, ça a une coque qui est assez dure. La peau, elle est très dure. Donc parfois j'utilise de l'étau carrément pour l'éclater, voilà. Et puis derrière je vais extraire l'huile et puis je vais également extraire les polysaccharides dont je parlais et réaliser après la fusion des deux molécules.
Vous en êtes à quel point aujourd'hui dans vos études de thèse? Est-ce que vous avez déjà soutenu vos différents projets ou non, pas encore?
Non, mais en fait, je crois que tous les deux, on a commencé en octobre.
Oh oui. D'accord.
Donc,
okay.
C'est récent.
Okay,
voilà, donc on a nos 3 ans devant nous.
Ok, d'accord. Voilà. Alors, pour revenir à vous, Marion Boisseau, justement, j'étais en train de vous demander... une fois que ces 3 ans seront écoulés, vous aurez soutenu votre thèse, vous serez reconnu comme docteur dans votre domaine. Quelles vont être les transformations pour nous, individus, pour l'humanité, ces études?
Alors, moi, ce que je fais, c'est de la recherche fondamentale. Donc, ce n'est pas appliqué, c'est plus théorique. Donc on essaye de...
Ça sert à rien, quoi.
Bah oui, voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Non, en fait, on essaye de... Pour appréhender un système d'études, il faut approfondir la connaissance. La connaissance, c'est très utile. L'humanité, enfin, l'humain est très curieux. Et donc, on a besoin de mieux connaître son environnement dans lequel on vit pour pouvoir mieux le gérer, mieux le conserver. Et donc, ça aurait des retombées, en fait, de mieux connaître le fonctionnement d'une forêt tropicale. C'est aussi, par exemple, pour des organismes comme l'Office national des forêts, l'ONF, de pouvoir mieux gérer, faire une meilleure gestion de la forêt et une meilleure conservation des espèces qui peuvent, par exemple, tendre à disparaître ou voilà.
D'accord. Donc, pour le moment, vous êtes à l'école doctorale qui se situe sur le campus de Troubira. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une journée classique pour vous aujourd'hui? Comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe en thèse? Alors, moi, je suis sur Kourou. Donc, je vis à Kourou. Je vais au laboratoire en vélo, voilà.
D'accord, faites-nous rêver, oui.
Et puis, c'est beaucoup le travail, il y a une phase de terrain, donc où c'est souvent très intense pendant plusieurs semaines. Donc là, je sors de 3 semaines de terrain où j'étais vers Saint-Laurent-du-Maroni. Où on est toute une équipe, où on échantillonne, voilà, en forêt, on récolte beaucoup. Et après, il faut revenir au laboratoire, se poser, regarder les résultats, qu'est-ce qu'on a, les interpréter. Donc là, on est plutôt face à notre ordinateur, on fait des réunions, on discute entre nous. Et c'est aussi en thèse, c'est aussi beaucoup de lecture, tu me confirmeras, oui. Beaucoup de recherche bibliographique sur ce que nos prédécesseurs ont fait, en fait. Pour savoir ce qu'ils ont trouvé, comment ça peut nous orienter dans nos recherches, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne connaît pas et si on peut essayer de combler les trous. Et après, là, aussi une grande partie, c'est communiquer les résultats, donc comme ma thèse en 180 secondes, mais c'est beaucoup de publications, c'est présenté à la société civile, mais aussi à ses pairs, au laboratoire, entre laboratoires, collaborer avec d'autres équipes. Par exemple, on collabore avec une équipe espagnole pour certains projets. C'est beaucoup de réseaux. On parlait de réseaux sur l'émission précédente, mais voilà.
Très bien. Et vous concernant, Wilfried, quelles vont être les retombées pour l'humanité de ces recherches que vous menez?
Et déjà, pour le contexte local, pour la Guyane, c'est déjà de la valorisation d'un palmier, comme je le disais, qui peut être menacé, qui est déjà menacé peut-être. Parce que déjà, si les gens parlent de cette toxique, on ne mange pas. Donc, ça fait déjà un point de vue sur un point
donc
là, de l'économie circulaire.
Concrètement, vous leur dites que la plante, le fruit n'est pas toxique, c'est comestible.
C'est comestible.
Ok, d'accord. Donc ça, vous nous rassurez sur ce point-là.
Là, je vous rassure. Déjà, je l'ai mangé aussi. Hein, donc,
rassurez-vous. Et il ne vous est rien arrivé?
Rien.
Vous n'avez pas eu le Covid?
Non, du tout pas.
Ok. Et d'autres retombées?
Et puis, bien sûr, ça enrichira la culture scientifique. Cette recherche, ça va quand même apporter un point de vue de valorisation, de pouvoir faire des synthèses, des nanovecteurs, comme je disais, biologiques, des nanovecteurs bio, 100% bio. Et puis, voilà, si on arrive, pourquoi pas des nanomédicaments biologiques également. Mm-hmm. On espère.
D'accord. Vous pensez aller jusqu'au brevet?
Voilà.
Ouais. D'accord, c'est tout le mal
qu'on peut.
Que l'on vous souhaite.
Voilà.
Alors, vous étiez 8 doctorants à participer à ce concours. Vous êtes 2 à avoir été récompensés et avoir obtenu le titre et le passeport pour aller représenter à l'Université de Guyane. Que je sache, aujourd'hui, aucun Guyanais n'a encore remporté ce concours au niveau national. Est-ce que ça vous met un peu de pression?
Bah ouais, c'est un challenge.
C'est un challenge.
De l'intérieur de nous-mêmes.
Vous dites peut-être là, il faut absolument que l'on fasse en sorte de revenir avec le trophée pour faire rayonner l'Université de Guyane au niveau national.
Ah bah effectivement.
Oui, on se dit c'est le moment.
Ouais. Faut valoriser un peu ce qu'on fait sur ce territoire, faire connaître un peu ce qu'est la Guyane, donc où se situe la Guyane. Je suis sûre il y a plusieurs métropolitains qui ne savent pas où se situe la Guyane. Ils confondent souvent Antilles, Guadeloupe, c'est une île, mais j'ai déjà entendu ce discours.
Et concrètement, comment ça va se présenter ce concours? Ça va se passer où? À quel endroit? Ce sera quand?
Alors là, avec les conditions sanitaires, ça sera en visio.
Ah oui.
Donc en fait, normalement.
Pas l'avion?
Non.
Dommage.
Donc, ouais.
On aurait aimé quand même.
Ouais, quand même. Mais non, ça va se passer en visio. En fait, on a été enregistrés pendant notre finale régionale. C'est ces vidéos-là qui vont être diffusées lors de la demi-finale. Donc, on est 58 candidats.
Oui.
Et il y aura 16 finalistes qui représenteront du coup la France de façon nationale. Voilà, au final.
D'accord. Et c'est pour quand? Quelle date?
Alors, on aura la réponse le 1er avril.
C'est jeudi. Voilà.
Vous êtes sûr que c'est le 1er avril?
Peut-être un poisson d'avril. Mais...
Ah oui, en plus,
je pensais à ça, moi.
En plus, ce sera en direct pour les résultats.
Ouais, ça sera en direct.
À 13h de Cayenne, voilà.
D'accord. Mais écoutez, on va suivre ça de très près. Et qu'est-ce qui a fait que, selon vous, ce sont vos projets qui ont capté en fait l'attention du jury et qui ont retenu l'attention du jury. Quelles étaient les valeurs ajoutées de vos projets par rapport à vos homologues?
Je pense que tous les projets de recherche sont très intéressants de nos collègues.
Oui.
Mais après, je pense que ma thèse en 180 secondes, c'est un exercice de synthèse, de vulgarisation, donc où il faut savoir aussi communiquer. Il y a un peu de jeu de théâtre puisqu'on est sur une scène. Pourquoi on a retenu l'intention du jury Peut-être au jury
de nous le dire.
Voilà.
Tout compte fait, je crois que tous on a tout donné, parce que ensemble, on se disait déjà que tout le monde était bon.
Bah oui.
Donc, comme on l'a dit Marion, tous les projets étaient solides. Hein. Parce que c'est des projets qui sont pensés en amont par des directeurs de thèse. Donc, c'est des projets qui étaient bien menés déjà. Et puis après, bien sûr, tout le monde a bien présenté. Et le jury a fait son travail.
Ouais, c'est du fair play, ça. C'est le fait de reconnaître la valeur de tous les concurrents. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? C'est de se revoir dans 3 ans pour faire un bilan par rapport à vos travaux de thèse.
Pourquoi pas?
Dans 3 ans, il y aura déjà d'autres, peut-être. Hein.
Enfin, espérons.
Espérons.
Ouais. Écoutez, merci beaucoup d'être venu à Radio Mayuri Campus partager avec nos auditeurs vos projets de thèse. Et on vous souhaite bien évidemment bonne continuation.
Merci beaucoup.
Vous arriviez au terme de vos études, de vos recherches, et que ça ait un retentissement vraiment positif et un impact positif sur nos sociétés.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Je vous en prie.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.